Merci Caroline Brouet, bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec Delphine Saltel. Le soir du 13 novembre, la toute première réaction liée aux attentats publiés sur les réseaux sociaux surgit à 21h20. C'est un tweet posté par un certain Grazi. C'est quoi ce bruit? Et quelques secondes plus tard, ça fait deux fois que j'entends comme un coup de feu, c'est normal? Puis, en quelques minutes, des dizaines, des milliers de tweets et de messages Facebook inondent les réseaux pour signaler ce dont les gens sont témoins, échanger, vérifier des informations, relayer des appels, poster des vidéos, des images, propager des rumeurs aussi. Facebook enregistre 320 millions d'interactions concernant les attentats sur son réseau français en 24 heures, comme une caisse de résonance gigantesque et cacophonique. Quand on dit cyberespace, on pense souvent à une sphère dématérialisée, un monde parallèle qui serait séparé de la vie réelle. Le soir du 13 novembre, la réalité était comme numérisée instantanément par les smartphones et les outils informatiques, sous forme de fichiers, de textes, de sons, d'images. Mais elle n'en devenait pas immatérielle pour autant. Bien au contraire, elle semblait augmentée, plus proche, plus violente, plus intrusive et implacable. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est un 13 novembre sur Internet, deux histoires numériques autour des attentats, deux histoires ultra-contemporaines qui parlent d'une société civile qui s'approprie le web pour mener les activités les plus banales comme les plus extraordinaires. Une histoire d'amitié, de retrouvailles et de disparitions où l'on entend les e-traces de nos vies réelles et une histoire de coulisses qui révèle la part obscure du net. Elles sont racontées à la première personne par Rémi Douate.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Chacun se souvient exactement de ce qu'il faisait le 13 novembre vers 21h30. Moi, je lisais, allongé sur mon canapé, quand le téléphone a sonné et qu'une voix blanche et familière m'a expliqué que des fusillades étaient en cours dans le quartier. J'ai raccroché, pas plus ému que ça. Il a fallu quelques minutes pour que l'impensable chemine jusqu'au cerveau. Et là, je n'ai pas allumé la télé, pas plus que la radio. J'ai ouvert Twitter sur Internet. C'est seulement là que j'ai réalisé l'ampleur de l'événement. Les trois mots récurrents sur Twitter, les fameux hashtags ou mots dièses, qui s'imposent alors toute la soirée, racontent à eux seuls l'histoire dans son ensemble. Le premier, c'est « Pray for Paris », « Priez pour Paris ». Je me dis que si l'heure est à la prière, ça va très très mal. Le second est plus pragmatique, c'est le hashtag « Porte ouverte ». Dans Paris, des centaines de personnes sont enfermées dehors en quelque sorte, car leur logement se trouve dans une zone encore dangereuse ou bouclée par la police. Ces invitations à trouver refuge pour un soir ont été tweetées 480 000 fois. Le dernier, le hashtag « Recherche Paris » est terrible. Il permettait aux personnes sans nouvelles d'un proche de recevoir l'aide des internautes. « Qui a vu ma fille ? Elle était au Bataclan ce soir. » Et moi, je m'attache à ces visages inconnus. Lola, Marion, Ellie, que tout le monde recherche, et dont on apprend soudain la mort en un tweet laconique. Parfois, je tombe quand même sur une bonne nouvelle. Agathe, 13 ans, a été retrouvée saine et sauve. Le lendemain et puis les jours suivants, je ne quitte pas cet état hypnotique et morbide, qui sont ces gens morts à la terrasse d'un café ou dans une salle de spectacle. Les heures passées sur Twitter et Facebook donnent quelques réponses. Des visages, des tranches de vie, des petits riens qui font entrer un peu d'humanité dans l'horreur. Et puis je tombe sur la page de Manu. Je lis son dernier post, Eagles of Death Metal, il y a ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Il est au Bataclan. Le concert démarre. Sous la photo qu'il a postée, des dizaines de messages. « Ça va Manu ? Dis-nous vite. » Parmi eux, Pierre, un vieux copain.
J'avais un copain au lycée, qui s'appelait Manu, que j'ai rencontré en classe de seconde. Très vite, on est devenus potes. On n'est pas devenus potes qu'à deux, on était un petit groupe. Et le socle de ce petit groupe de potes, c'était la musique. On n'avait pas tous exactement le même goût, mais on aimait vraiment discuter, vraiment partager. Est-ce que c'est les Beatles? Non, c'est les Stones. Ah, Joy Division, c'est nul, etc. etc. Et les souvenirs que j'ai de cette époque, qui sont des époques qui marquent, hein. C'est ces soirées chez Rémi, qui avait un piano, et Loïc qui se mettait au piano et qui animait, et nous on chantait, et c'était extraordinaire, et ça m'a vraiment marqué pendant de longues années. Et donc dans cette bande, il y avait Manu. Manu, on était différents sur certains aspects. Moi, je venais d'un milieu très bourgeois. Lui, il venait d'un milieu pas du tout bourgeois. Sa maman tenait une loge dans le 10e arrondissement. Et ça n'a jamais été un problème. Et je pense que et l'un et l'autre apprécions ces différences qui, finalement, nous rapprochaient. Ça, je me souviens, avec Manu, on a fait pas mal de concerts ensemble. C'est pareil, c'était l'époque de mes premiers concerts. On avait fait U2, qu'il aimait pas trop, mais c'est pas grave, il avait eu des places et je l'avais accompagné. On avait fait Noir Désir et il jouait dans les groupes de punk parce qu'il avait un côté très rock, très affirmé. Mais c'est un garçon d'une très grande tendresse, d'une grande générosité. Mais j'aimais bien ce côté réservé, timide et en même temps cette capacité à tirer la lumière. Très beau gosse, il attirait beaucoup les filles. Grand, bleu sourire, belle gueule, mais il n'en jouait pas. Il s'habillait, c'était l'époque Nirvana, hein, pour remettre dans le contexte. Hein. Donc il attirait vraiment les nanas, mais en même temps, il n'arrivait pas à les garder. Il n'arrivait pas à les garder parce que bah, il était trop tendre, trop cœur d'artichaut, et je pense que peut-être qu'il aurait fallu un côté plus dur, je ne sais pas. Et voilà, tout ça nous amenait à être très très proches. Et ce qui est dur en fait dans l'amitié, c'est qu'on devient très vite amis. Et à ces époques, on prend très vite de la distance. Tous les ans, on change de classe, et on rencontre de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes nous font découvrir de nouvelles choses. Et que ce soit lui, que ce soit moi, je pense qu'on a chacun pris des itinéraires un tout petit peu différents. Et puis, ben, les semaines, les mois, les années ont passé. Et le truc, et ça, je m'en souviens, ça m'est revenu récemment, j'ai l'intime conviction que le dernier à avoir appelé l'autre, c'est Manu. C'est Manu qui m'a appelé chez mes parents, je sais pas quel âge j'avais, 21-22 ans. Mais il m'avait appelé pour prendre de mes nouvelles. Évidemment, on avait dit, on se fait un truc, et le truc s'est jamais fait. Et donc, il s'est passé des années. Moi, j'ai fondé une famille, et puis j'ai commencé à travailler dans le milieu du conseil, un milieu très sérieux. Quelque part, on est un peu rattrapé par nos milieux d'origine. Hein. Mais pendant toutes ces années, cette époque du lycée m'avait marqué. Cette bande s'est complètement disloquée. On s'est perdu de vue. Hein. Mais j'ai vraiment très très souvent repensé à Manu. Et on me demandait, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que lui aussi, il a construit sa vie? Laquelle? Et c'est ce qui m'a donné envie, récemment, de reprendre contact avec lui. Parce que, quelques temps, je parlais de mes années lycée avec ma femme. Et je lui ai dit, c'est très net, on était au restaurant. Je lui ai dit, putain, il y en a un, là. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il devient. Ah ouais, c'est qui? C'est Manu. Ah bon, pourquoi? Ah parce que Manu, putain, à l'époque, voilà, les concerts, les conneries, sa petite gueule. Je suis sûr que c'est devenu quelqu'un de bien. J'aimerais juste savoir qui c'est, juste comme ça. Elle me dit, mais vas-y, vérifie. Ah ouais, mais j'ai déjà vérifié 10 fois sur Internet. Le problème, c'est que des Manu, il y en a 1000, des comme lui, dans Paris. Et j'avais déjà cherché, j'avais jamais trouvé. Et en fait, je me suis redonné la peine de le chercher. Et finalement, je suis retombé sur le site Copain d'Avant. Bonne pioche, donc lycée de Garquinet, Paris 9e, et les 3-4 expériences professionnelles qu'il avait eues depuis. Donc en fait, j'apprends qu'il travaille dans la musique. C'est lui, je me dis, c'est Manuel, c'est Manu, quoi. Et c'est par le réseau social professionnel LinkedIn que j'ai recoupé. Et là, je lui ai envoyé une demande d'invitation. Comme on fait tous les jours dans le milieu professionnel. Est-ce que vous voulez être dans mon réseau pro? Sans rien, sans message particulier. Et je me suis dit, il ne va jamais se souvenir de moi. Quoi. Il s'est passé 20 ans. Des mecs, il en a rencontré 1000. Et 4 jours plus tard, il m'a répondu avec un petit texte. Pedro, je suis trop content d'avoir de tes nouvelles. Il faut qu'on rattrape les 22 dernières années. Dis-moi quand t'es dispo. Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai mes deux filles en garde alternée. C'est une semaine sur deux. Donc pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines. On était pressés de se revoir. On a pris la première date possible dans le calendrier. Avec grand plaisir, bisous. Et j'ai vu ce mail, c'était mon premier mail de la journée. Ça a égayé ma journée. En plus, il me dit, j'ai deux filles, garde alternée. Ça faisait écho en moi parce que j'ai deux enfants. Je suis séparé, je ne les ai pas en garde alternée. Mais tout de suite, j'ai vu les points communs. Bingo, quoi. Bingo. Donc, on convient d'une date. 17 novembre. Je te file mon numéro de portable, 0606. Et je t'attends, impatience, on se confirme ça. Bonne journée, bon week-end, bisous. Et voilà l'histoire, en fait. Et le vendredi 13 novembre, on était parti en week-end en amoureux. Fruits de mer, on en rêvait depuis des mois et des mois. Et pendant le dîner, on reçoit des messages sur nos téléphones. Et les messages qu'on reçoit, c'est attaque, fusillade dans Paris. Voilà, donc on quitte le resto. Ma femme se met sur Facebook et découvre qu'un de nos amis est au Bataclan. Mais heureusement, on a appris à 6h du matin que cet ami, même s'il avait été blessé, était en vie, pris en charge, à l'hôpital et que ses jours n'étaient pas en danger.
Pierre n'a pas envie d'entrer dans les détails. Il raconte sans s'attarder les balles de Kalachnikov dans la jambe de son copain et les dizaines de coups de fil reçus alors même qu'il était encore dans le Bataclan. Son récit me fait penser à celui de Louise. J'ai découvert son incroyable témoignage dans Libération et depuis je ne la lâche plus sur Twitter. Cette fille est un bras d'honneur à la mort. Le 13 novembre, elle est au Bataclan, blessée, entourée de cadavres, et elle pense très fort à son portable. « Mon sac commence à vibrer », écrit-elle. « Je ne peux pas l'atteindre, mais de toute façon, je n'aurais pas essayé. Je compte les vibrations, il y en a 11, c'est un appel. Puis d'autres. Là, je sens de moins en moins que je vais mourir. Si j'arrive à compter les sonneries, c'est que mon cerveau fonctionne. Alors je compte les sonneries en regardant le sol. Mon sac est devenu mon doudou. Il me permet de ne pas voir ce qui se passe, d'être dans ma bulle où je compte les sonneries, en ne pensant à rien d'autre.
On a fait un aller-retour sur Paris dans la foulée, on n'a pas dormi de la nuit, on a été les premiers à le voir à son réveil à l'hôpital et on a passé un samedi à essayer de rassurer sa famille qui elle-même était sans nouvelles, enfin bon, voilà, et le dimanche pareil. Et on arrive à dimanche soir où on rentre chez nous, de notre appart. Je pense qu'on n'y avait pas mis les pieds depuis le vendredi. Avec, pour ma part, ce sentiment de me dire, on a vécu un week-end dur, mais au final, on s'en sort pas mal. Et là encore, je prends mon téléphone pour suivre les derniers événements de l'enquête, lire mes mails. Et Rémi m'a envoyé un mail, j'avais plus de nouvelles de Rémi depuis 10 ans, et Rémi me dit que Manu faisait partie des victimes du Bataclan. La nouvelle tombe, et là, on est le 15, je devais dîner avec lui 2 jours plus tard, et le premier réflexe, ça a été de me mettre sur son Facebook, à lui. J'ai ressenti un immense besoin de me nourrir de Manu, et de rattraper le temps perdu. Et moi, ce que je voulais, c'était savoir qui il était devenu, quel homme il était, quel père il était, qui étaient ses potes, qui étaient ses groupes de musique préférés, ce qu'il faisait en vacances. Et j'avais pas la réponse à tout ça, et j'ai eu besoin de le vivre. Et c'est pour ça que j'ai parcouru des heures entières sa page Facebook pour savoir voilà qui il était, et type d'informations qu'il postait, ce qu'il faisait. J'ai vu des vidéos de lui, des vidéos de ses filles, que j'ai trouvées hyper touchantes. Quand je vois ses filles, quand je vois mes enfants, évidemment, je fais un parallèle. Nos enfants ont exactement le même âge, 7 et 10 ans. Voilà. On est vorace, on dévore tout. Il y a un côté voyeur. On visite l'appartement de quelqu'un qui n'est plus là. On ouvre les tiroirs, on regarde les cassettes vidéo. C'est très traumatisant. Et en même temps, j'avais besoin de le faire. Et très vite sur Facebook, en fait, les gens se sont remanifestés. Moi, j'ai posté un mot en disant on était au lycée, il y avait Rémi, il y avait Loïc, il y avait Manu. Et dans les jours qui ont suivi, Loïc s'est manifesté. J'étais avec Rémi et très vite, tous les trois, on s'est dit faut qu'on se réunisse, faut qu'on soit là pour Manu, pour ses proches. Et donc, on s'est retrouvés le jour de la cérémonie au Père-Lachaise. Et là, tu tombes dans la mélancolie, en fait. Mais c'est quand on est rattrapé par le temps que tout d'un coup on se dit, mais quel con, c'est qu'on laisse passer les occasions. Alors que putain, qu'on s'est vu au cimetière, moi, c'était comme la veille. Et je me dis, mais pourquoi alors? Mais pourquoi on n'a pas pris le temps de se voir plus? Je sais pas.
Transculture, les pieds sur terre.
Chez moi, comme chez Pierre, la boulimie d'Internet et de réseaux sociaux a duré, et dure encore. Moi aussi, j'ai visité, comme par effraction, l'intimité numérique de certaines victimes. Et puis j'ai lu, sur Internet la plupart du temps, des articles, des tribunes, des coups de gueule, jusqu'à l'overdose. Et comme je n'en avais pas assez, j'ai lu aussi les commentaires. Les commentaires, ce sont ces contributions que les internautes peuvent laisser après la lecture d'un article en ligne. Son lointain parent, c'est le courrier des lecteurs. Et en lisant les commentaires depuis le 13 novembre, je me dis que la lenteur du courrier n'était peut-être pas si mal. Racisme, complotisme, islamophobie, les attentats ont libéré la parole. Et encore, on ne lit pas tout.
Alors là, vous travaillez ?
Ah oui, là je suis en train de travailler. Donc je suis sur le site d'un grand quotidien national français.
Des modérateurs sont chargés de filtrer ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.
Donc en fait, on a une interface de modération qui regroupe l'ensemble des sites qu'on modère.
C'est le cas de Valérie, que je rencontre à son travail. Toute la journée, elle modère.
Donc le 13 novembre au soir, à 22h, j'étais au lit parce que j'avais passé une très mauvaise journée, j'étais très fatiguée. Et j'ai été réveillée en sursaut par le téléphone que j'ai laissé sonner. Et le temps de me réveiller, d'émerger un peu, on m'avait laissé un message et je me suis rendu compte que c'était ma mère. Bon, ma mère qui m'appelle à 22h, j'étais un peu étonnée, donc j'ai écouté son message. Et elle était complètement affolée, très stressée. Elle me parlait d'attentats, elle me demandait si tout allait bien, elle espérait que j'allais bien, que j'étais pas sur les lieux des attentats. Elle me demandait de la rappeler de toute urgence. Donc là, j'étais vraiment encore bien, bien endormie, mais j'ai le réflexe directement d'aller sur mon ordinateur et de regarder mon fil Twitter. Et je me suis rendu compte que tout le monde parlait d'attentats, de fusillades, de Bataclan, de 11e arrondissement. Donc j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et là, je contacte un des modérateurs qui était en train de travailler à ce moment-là et je lui demande ce qui s'est passé et il me raconte brièvement. Et donc là, bah, je sais que j'ai deux choses à faire, trois choses à faire. C'est un, de me réveiller, deux, d'appeler ma mère en vitesse pour la rassurer. Et après, bah, j'ai pas d'autre choix que de me mettre à travailler pour aider les collègues, parce que je savais qu'il y aurait énormément de commentaires qui seraient difficiles, qui seraient compliqués à lire. Donc j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin, parce que simplement, j'étais trop énervée, attristée, stressée pour me coucher, donc... autant que je travaille, que ça puisse aider les autres. Et là, ça a été la déferlante. Et un des premiers commentaires que j'ai lus, c'est « Ces salauds d'Arabes nous auront vraiment tout fait » sur une grande chaîne de télé française, donc il y a un site Facebook. Il y avait eu un article sur les migrants et sur le corps d'une enfant de 4 ans qui avait été retrouvée en Turquie. Elle s'était noyée. Et on a eu une cinquantaine de commentaires en quelques minutes. Et ces 50 commentaires, aucun n'était validable, puisque ça disait par exemple « On n'en a rien à foutre une future kamikaze de moi. » Et alors, moi, je m'en fous complètement. Pas besoin de partir de leur pays avec des enfants. Pour moi, ce sont des criminels. Encore un autre qui écrit « Oui, alors, nous enterrons nos morts à cause de ça. » Donc ça, c'est une gamine de 4 ans noyée. « Venez pas nous embêter avec vos photos de pleurnichards, merci. » Certains commentaires sont quand même sont assez inquiétants, quand même. Là, par exemple, c'est un commentaire... Celui-là, j'ai envie d'en parler quand même. À propos de la femme qui a hébergé les terroristes, qui dans un premier temps était vue comme une kamikaze, on ne savait pas encore que c'en était pas une, et quelqu'un a écrit « Elle a fait de la purée musulmane ».
Et puis, au milieu de son récit, Valérie est submergée par la tristesse.
Deux secondes, Kleenex.
Je réalise que l'avalanche de haine qu'elle soustrait à nos yeux d'internautes ne la laisse pas indemne. Je la comprends. Ma propre overdose d'internet, à partir du 13 novembre et lors des semaines qui ont suivi, m'ont rendu très triste. Valérie, elle, lit 5000 commentaires par jour. 1500 sont impubliables, racistes, homophobes, antisémites ou islamophobes. J'ai envie de lui dire d'éteindre son ordinateur. Et moi, j'ai envie de prendre le temps de lui demander tout simplement comment elle va.
Je vais plutôt très mal, je pense. On est pas mal de modérateurs à aller plutôt très mal. En fait, ce qui est paradoxal quand je pleure, c'est que je pleure pas spécialement pour les victimes, parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais je pleure plus face aux réactions, parce que je me dis qu'elles sont... Si vous voulez, c'est un petit peu comme ces caricatures qu'on peut pas voir dans les vieux films où les gens s'engueulent au-dessus d'un cercueil. Et là, c'est un peu la même chose, c'est que les victimes étaient même pas froides, que les gens étaient déjà en train de s'insulter les uns les autres au-dessus de leur corps. Et il faut s'accorder le droit de ne pas savoir, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire. Et en fait, je peux parfaitement comprendre que les gens éprouvent de la haine envers les terroristes ou ceux qui les ont aidés. Simplement, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de rajouter de la haine à la haine. Je ne suis pas sûre que ce soit cathartique. Parce qu'en fait, on constate très bien que lorsqu'il y a un commentaire dans ce sens-là, derrière, il y en a des dizaines. Et c'est vraiment la haine alimente la haine, en fait. On n'a pas d'apaisement, ça ne crée pas d'apaisement, ça ne calme pas les gens. Au contraire, ça les excite de plus en plus, ça les énerve de plus en plus. Et leurs propos sont au fur et à mesure... De l'ordurier, il passe au raciste très rapidement. Donc, exprimer sa haine envers les terroristes, oui. Mais je pense qu'on peut aussi garder ça pour soi, en fait. Un autre qui écrit « Il faut riposter de la même façon, tirer sur tout ce qui bouge et qui n'est pas français. Virer tous ces migrants, des terroristes profitent d'eux pour s'introduire en France et commettre ces attentats. Réveillez-vous, Français, il n'y a qu'une personne qui peut nous débarrasser de toute cette vermine, racaille et ses assassins. Alors cette fois-ci, n'écoutez ni les Hollande ni les Sarko, ils sont pires qu'eux, je compte sur vous tous, Français, pour sauver la France. » Donc ça, c'était au moment où on apprenait les fusillades. Les victimes n'ont pas été en reste puisque ils se sont pas gênés pour insulter les victimes. Et là, par exemple, on en a un qui dit « La France des bisounours vient d'entrer de plein pied dans le monde réel. Les quartiers bobos payent le prix fort de leur vote gauchiste. » Un autre écrit « Paris est majoritairement peuplé de bobos qui votent pour l'immigration. Les résultats du bon vivre ensemble laissent pantois. » Là, ça devait être minuit ou alors c'était le lendemain matin tôt, vers 8h du matin. Et ils étaient vraiment en nombre, là j'en lis quelques-uns, mais il y en avait vraiment des milliers et des milliers. Je me souviens d'un de mes collègues modérateurs qui me disait que quand il rentrait chez lui le soir, après sa journée de travail, il regardait tous les gens dans le métro, il avait l'impression de voir des racistes partout. Tellement il était conditionné par son travail, et d'autres modérateurs m'ont dit que après avoir arrêté d'être modérateur, quand ils ont changé de travail, Oui, ils se sont rendus compte qu'en fait, le monde n'était pas aussi noir qu'ils le voyaient en étant modérateur. Je pense que ça donne une vision du monde assez pessimiste. Preuve en est que moi, après 10 ans de modération, avec n'importe quelle actualité, je peux prédire à l'avance les commentaires que je vais lire. Et je pense que la plupart des gens ont tout intérêt à s'épargner ça et à ne pas savoir ce que nous, on lit. C'est beaucoup mieux.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un 13 novembre sur Internet, une émission de Rémi Douat réalisée par Perret Legras. Sandrine Chaperon est notre attachée de production. Merci à Valérie, Pierre et Solé. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission ou notre compte Twitter. J'en profite pour signaler que vous pourrez retrouver aussi, bientôt, enfin, l'irremplaçable Sonia Kronlund qui sera de retour sur les ondes dès le 28 décembre. Bon après-midi à tous sur France Culture.